autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour nous poser des questions vertigineuses sur la mécanique céleste. Pourquoi observe-t-on dans notre système solaire et même au-delà une telle diversité, un tel bestiaire de planètes et désormais d'exoplanètes, accompagnées de satellites, de lunes, elles aussi toutes différentes, gravitant autour d'une étoile comme notre Soleil, mais pourtant à chaque fois si singulières. Comment, à partir de poussières stellaires, se sont formés tant de systèmes planétaires aussi divers qu'étranges? C'est une des grandes énigmes astronomiques du 21e siècle, mais aussi un voyage à remonter l'espace et le temps que nous vous proposons de partager avec nos deux invités exceptionnels. Le mot n'est pas trop fort. Le planétologue Alessandro Morbidelli, en duplex avec nous depuis l'Observatoire de Nice Côte d'Azur, internationalement reconnu, il vient d'être nommé professeur au Collège de France sur la nouvelle chaire Formation planétaire de la Terre aux exoplanètes, internationalement reconnu parce qu'il a formulé le modèle de Nice qui montre que la structure actuelle de notre système solaire est le résultat d'une phase d'instabilité pendant son évolution. Alors est-ce cela qui rend notre planète Terre si unique, la seule connue à ce jour à abriter la vie? Cela a-t-il un lien avec les effets de marée entre les planètes et leurs satellites et leurs étoiles? Des effets de marée étudiés par Valérie Lenné, astronome à l'Observatoire de Paris, qui vient lui de découvrir un océan d'eau liquide sous la couche glacée de Mimas, une petite lune de Saturne. Sidéral, sidérant et bouleversant. Valérie Lenné est aussi en direct avec nous autour de la question: pourquoi une telle diversité dans notre système solaire et au-delà? Piste de réponse inouïe et toujours aussi inattendue, comme nous le disait déjà en 2011 le regretté André Brahic, découvreur des anneaux de Neptune.
J'ai le bonheur de participer à l'émission Voyager qui a eu lieu entre les années 1979 et 89, et c'est Sondes Spatiales Voyager 1 et 2 qui partaient à la découverte du système solaire externe, abordaient ce qui était pour les hommes depuis des millénaires des points de lumière dans le ciel. Jupiter, Saturne,
ça n'était que des points de lumière.
Et ces sondes allaient découvrir brutalement des mondes à part entière avec une résolution de quelques centaines de mètres. Maintenant, avec la sonde Cassini, on a quelques mètres même de résolution. Donc brutalement, ce qui était un point de lumière devenait un monde avec des volcans, des geysers, des montagnes, des vallées, des cratères, et un monde complet. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce monde ne ressemblait pas du tout à ce qu'on attendait. À l'école, on m'avait appris qu'en gros, il y a les planètes terrestres, style Vénus, la Terre et Mars, qui est planète géante, c'est Jupiter, Saturne, que tous ces objets devaient les planètes terrestres devaient ressembler entre elles, les planètes géantes ressemblaient entre elles, et des satellites qui ressemblaient à la Lune. Donc on s'attendait à voir des satellites comme la Lune. Il n'y a pas du tout. C'est le contraire. Chaque objet a sa personnalité, chaque objet est différent.
Pourquoi une telle diversité, tant de singularités dans notre système solaire, mais pas seulement, au-delà aussi? La question se pose toujours et plus que jamais, n'est-ce pas, Alessandro Morbidelli? Bonjour.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc on découvre que les différents mondes du système solaire sont assez différents entre eux, du point de vue physique, mais avec la découverte des systèmes planétaires extrasolaires, donc des planètes qui tournent autour des autres étoiles, on s'aperçoit que la structure générale de notre système solaire n'est pas du tout la structure typique. Et les systèmes extrasolaires peuvent être très différents de notre système solaire, peuvent être très différents entre eux. Donc clairement, dans les processus de formation des planètes, que, bien sûr, est régi par les lois de la physique, qui sont universelles, il doit y avoir des points de branchement, de bifurcation ou des systèmes différents selon les petites conditions initiales aux conditions de l'environnement, prendre des voies d'évolution différentes pour aboutir enfin à des structures complètement diverses.
Et voilà ce que vous étudiez, hein. Je rappelle que vous êtes, vous êtes d'abord en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Provence à Nice, Alessandro Morbidelli, et vous venez d'être nommé professeur au Collège de France. Vous êtes un des plus éminents spécialiste de mécanique céleste. Vous avez formulé le modèle de Nice, justement, pour expliquer la formation de notre système solaire liée à une perturbation. Et vous travaillez précisément au Collège de France sur une nouvelle chaire qui s'intitule « Formation planétaire de la Terre aux exoplanètes ». Vous essayez de remonter finalement aux origines de la formation, de l'évolution, comprendre qu'est-ce qui a fait une telle diversité d'objets, finalement, et une telle diversité de systèmes partout dans l'univers.
Oui, c'est le but ultime de mes recherches, surtout pour les systèmes solaires, grâce à toutes les infos qu'on a à partir des observations, des missions spatiales, mais aussi l'analyse des échantillons, l'analyse des météorites. Donc on a toute une manne d'informations qu'il faut mettre ensemble dans un scénario cohérent qui nous permet de reconstruire notre passé. Comment le système solaire s'est formé, pourquoi et comment il a acquis cette structure particulière qui permet à la Terre d'exister et d'être une planète habitable, en fait, habitée.
Voilà, pourquoi et comment sommes-nous là dans notre système solaire, c'est là où on va être, hein, et où l'on est pour l'instant. D'abord avec vous, Valérie Lainé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans notre studio ici, autour donc de cette assez fantastique découverte qui a d'ailleurs fait la une de la prestigieuse revue scientifique Nature. C'est quand même le résultat d'années de recherche et d'hypothèses. Vous avez découvert, Valérie, rien moins qu'un océan souterrain d'eau liquide sous la surface de Mima, c'est une des 80 lunes de Saturne, si je ne m'abuse.
Je vous avoue que j'ai même pu les compter, parce qu'il y en a tellement et ça change régulièrement. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il s'agit d'une des lunes principales de Saturne, c'est-à-dire une lune déjà qui est assez grosse pour avoir une taille à peu près sphérique, et qui par ailleurs évolue assez proche de Saturne. Donc c'est...
On connaissait Encelade comme lune de Saturne, qui elle aussi a un océan liquide, mais on n'aurait jamais imaginé, jamais cru d'ailleurs, que sous Mima, il y a un océan d'eau liquide jeune. Et ça, vous l'avez démontré.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la comparaison avec Encelade est pertinente, puisqu'Encelade a à peu près la même taille et la même composition que Mima, évolue à peu près à la même distance de Saturne. Donc, ce sont deux lunes qui, finalement, auraient tout pour se ressembler, et pourtant, leur surface est complètement différente. L'une a une surface extrêmement récente, avec ce qu'on appelle du resurfaçage, vous avez ces geysers, qui, évidemment, vont permettre à la surface d'être en permanence renouvelée. Et de l'autre côté, vous avez Mimas, qui est une lune extrêmement cratérisée, qui lui avait valu le surnom d'ailleurs de lune de la mort, parce qu'elle a un énorme cratère qui s'appelle Herschel, qui fait penser effectivement à l'un des objets mythiques de George Lucas. Et effectivement, cette lune-là était vraiment en opposition totale avec Encelade. Donc Encelade, une lune où manifestement il y avait de l'eau liquide sous la surface, et puis Mimas, un corps froid, rigide, figé.
Alors qu'est-ce qui a fait justement ? Je rappelle que vous étudiez quelque chose que moi je ne connaissais pas, ce sont les effets de marée, mais que nos auditeurs qui nous en parlent sur notre page Facebook connaissaient, ce sont les effets de marée. Qu'est-ce qui a fait ? Est-ce que sont justement ces effets de marée entre notre Lune et la Terre qui vous ont fait aller regarder de plus près ce qui se passait à l'intérieur de Mimas ?
Alors effectivement, les effets de marée, en règle générale, quand on parle des effets de marée, on pense aux marées océaniques et donc à l'attraction de la Lune sur les océans. Bon, je rappelle que les effets de marée, c'est quelque chose qui est partout dans l'univers. Tout objet est déformable à partir du moment où il est sous un champ gravitationnel d'un autre objet massif, eh bien, il va se déformer. Vous avez en fait les points de la surface de l'objet qui sont les plus proches de l'objet attracteur sont plus attirés et donc vous avez une déformation. Donc, ce qu'on appelle les effets de marée. Cette déformation, si elle est entretenue de manière périodique, par exemple par une orbite excentrique, vous allez avoir de la friction à l'intérieur de l'objet, vous avez une déformation périodique, et c'est un peu comme quand vous vous frottez les mains, ça crée de la chaleur. Mais là, c'est la même chose, vous allez, par cette friction, produire de la chaleur, et la chaleur, c'est nécessaire pour transformer la glace d'eau en eau liquide.
Voilà pourquoi vous avez quand même cherché jusqu'au bout, hein, envers et contre tous et tout le monde, de l'eau sous la couche glacée de Mimas,
oui.
Valérie Lainé.
Alors, en fait, nous avions une intuition au départ, en 2010, qui nous laissait... penser que Mimas n'était pas la lune que tout le monde imaginait. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que Mimas est une lune de par sa surface cratérisée, de par aussi son orbite. On avait des signes qui nous laissaient penser que cette lune n'avait pas évolué en 4 milliards d'années. Et nous avions l'intuition que c'était tout le contraire, que Mimas, dans les dernières dizaines de millions d'années, avait dû évoluer. Pourquoi ? Parce que Mimas, aujourd'hui, a un impact assez significatif sur les anneaux de Saturne. Et nous avions essayé à l'époque, dès 2010, de comprendre pourquoi vous aviez la présence de cette grande division dans les anneaux de Saturne, qui fait 4500 km de diamètre, donc c'est assez conséquent, qui a d'ailleurs été découverte en 1675, donc vous voyez qu'elle est facilement observable, et qui s'appelle la division Cassini. Et nous avions compris en 2010 que si Mimas, hypothèse qui pouvait paraître à l'époque extrêmement osée, s'était fortement réchauffé dans les dernières dizaines de millions d'années, il se serait rapproché de Saturne et aurait ouvert cette division. Donc, en partant des anneaux de Saturne, assez rapidement, nous sommes tournés vers Mimas et les marées dans Mimas.
Voilà comment, finalement, les découvertes scientifiques sont des allers-retours entre des observations, des études, des réflexions, de surprise en surprise. Récit d'une découverte astronomique et aussi une très belle histoire de science. Dans cet extrait du petit film de l'Observatoire de Paris sur votre découverte, visible sur YouTube, Mimas à la recherche de l'océan caché.
En 1789, William Herschel découvre deux nouveaux satellites autour de Saturne, Encelade et Mimas. Depuis, les chercheurs ont constaté que tous deux ont des tailles similaires, une surface glacée et évoluent à une distance à peu près équivalente de Saturne. Aujourd'hui, grâce aux images récoltées par la sonde spatiale Cassini, nous savons qu'Encelade possède des geysers et une surface essentiellement lisse. Mimas, au contraire, se révèle beaucoup plus cratérisée. La surface lisse d'Encelade est une surface régulièrement renouvelée grâce à l'activité de son océan interne et de ses geysers. Si la surface cratérisée de Mimas semble ancienne et inactive, peut-on pour autant en déduire que son intérieur est différent de celui d'Encelade? C'est ce qu'a tenté de savoir une équipe internationale menée par des chercheurs de l'Observatoire de Paris. Les chercheurs ont réussi à calculer de manière extrêmement précise, à quelques centaines de mètres près, le mouvement orbital de Mimas en s'appuyant sur les images de la sonde Cassini. En comparant les résultats obtenus à partir des deux hypothèses, un large noyau allongé ou bien un océan global, les derniers doutes sont levés. L'existence d'un océan interne global sous la croûte de Mimas est désormais le seul scénario compatible avec l'observation. Les calculs ont même permis de déterminer que cet océan débute à une profondeur comprise entre 20 et 30 km. Mimas a pu garder ses cratères intacts parce que cet océan est profond et qu'il est récent. Mimas rejoint ainsi la famille des satellites accueillant un océan sous leur surface. C'est d'ailleurs le plus petit d'entre eux. Tout comme sur Encelade, l'eau liquide présente sous la couche de glace de Mimas offre des perspectives intéressantes au développement de la vie extraterrestre. Son apparition récente nous montre que les conditions favorables au développement de la vie peuvent survenir à tout moment dans l'histoire du système solaire et au-delà.
Alessandro Morbidelli, j'ai envie de vous faire réagir sur cette découverte d'un océan global d'eau liquide sous la surface d'une des lunes de Saturne, Mimas, découverte réalisée par Valérie Henné qui est avec nous en studio. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça vous a étonné? Quel est votre commentaire sur cette découverte?
Tout d'abord, je voudrais féliciter Valérie, c'est une étude vraiment fantastique. Comme il l'a dit, c'est une étude qui a commencé dans les années 2010, aboutit maintenant en 2024, donc ça montre aussi que pour obtenir des résultats d'envergure, il faut investir, il faut avoir de la patience. Donc ensuite, alors les lunes des planètes géantes, typiquement, ont beaucoup de glace, parce que eux sont des mondes qui se sont formés dans les disques externes protosolaires, là où il y avait beaucoup de glace, parce que la température était très froide. Mais bien sûr, pour avoir ces océans liquides, il faut avoir une source de dissipation, une source d'énergie interne, et celle-ci vient des marées lorsqu'il y a un peu d'excentricité orbitale. Et donc, voilà, l'étonnement est justement avoir la preuve de l'existence de cet océan liquide, qui est aussi la preuve d'une certaine excentricité orbitale actuelle dans les passés récents. Donc, il est lié à la largeur de la division de Cassini, comme Valérie vient de l'expliquer.
C'est ça, cette excentricité orbitale, c'est lié à cet effet de marée. Valérie Lenné, à ce sujet, à nos auditeurs à Douala, au Cameroun, Ghislain Bamba, il vous demande quel est l'intérêt finalement, enfin l'intérêt des marées, au-delà de la périodicité, dans l'équilibre des planètes. C'est ça qui joue, comment est-ce qu'on peut le préciser, ça?
Alors, peut-être revenir sur ce que disait André Braïc au tout début. Donc effectivement, André Braïc s'étonnait, enfin tout le monde s'est étonné des images voyageurs lorsqu'on a vu qu'on avait affaire à des mondes qui étaient très différents de ce qu'on attendait. Je pense que l'exemple le plus surprenant, c'est certainement Io, qui est l'une des quatre grandes lunes de Jupiter, qui est un satellite qui a un volcanisme intense en permanente activité. Et en réalité, ce que l'on n'avait pas forcément réalisé à l'époque, c'est que certes, ces mondes sont loin du Soleil, donc on peut penser qu'il y a peu de sources de chauffage, mais les effets de marée viennent contrebalancer cela, comme le disait aussi Alessandro tout à l'heure. Et donc c'est grâce aux effets de marée qu'on va pouvoir créer de la chaleur et donc créer toute cette diversité de mondes, entre un monde volcanique comme Io, ou au contraire un océan sous la couche de glace comme Europe ou comme Ganymède, les effets de marée vont avoir un effet majeur, en fait, dans cette production de chaleur et dans cette diversité.
Donc, c'est cette découverte aussi de ces effets de marée avec les observations récentes. On va parler de la sonde Cassini, puis aujourd'hui, on ne cesse d'observer et découvrir. À chaque fois, ce sont ces effets de marée qui ont aussi changé la donne.
Dans le cas des satellites, oui.
Dans le cas des lunes, des satellites.
Alors, ce que je peux les satellites, effectivement, ce sont les satellites naturels ou les lunes, j'utiliserai l'un ou l'autre.
Ouais, ouais.
Effectivement, dans le cas des lunes, ce sont vraiment les effets de marée qui vont jouer un rôle crucial sur l'évolution à long terme du système. J'utilise généralement la comparaison en musique du tempo. Donc, le tempo, c'est la vitesse à laquelle vous allez jouer une œuvre musicale. Et évidemment, si vous avez un tempo qui est très lent ou très rapide, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est exactement ce qui va se passer avec les effets de marée. Les effets de marée, en particulier dans la planète, donc Jupiter, Saturne, Uranus, eh bien, vont permettre aux lunes, aux orbites des lunes, de s'éloigner plus ou moins vite, suivant la quantité d'énergie dissipée par friction dans la planète géante, donc les marées dans la planète. Et c'est ça, en fait, qui va vous dire si vous allez avoir des évolutions rapides, lentes, des excentricités orbitales qui vont être excitées ou pas par ce qu'on appelle des résonances. Bref, donc effectivement, les marées dans la planète, c'est, j'ai envie de dire, le point de départ de tout ça.
Le point de départ, Alessandro Morbidelli, ce qui veut dire que dans votre étude de la formation planétaire, que ce soit dans le système solaire ou au-delà, des exoplanètes, la question des marées et de la force des marées est quelque chose de fondamental.
Oui, alors pour les planètes, ça l'est un peu moins, parce que typiquement les planètes sont loin de l'étoile centrale, mais en fait on a découvert beaucoup de planètes extrasolaires qui sont très proches à leur étoile. Donc, ils tournent autour de l'étoile en quelques jours seulement, alors que la Terre met 365 jours pour tourner autour du Soleil. Et du coup, ces planètes-là sont très affectées par les marées dues à l'étoile centrale. Et par exemple, on pense qu'elles montrent toujours la même face à l'étoile, comme la Lune montre toujours la même face à nous.
Ah oui, là, ça change tout.
Ça change tout. Ça veut dire qu'il y a un hémisphère qui est dans les jours pérennes et un hémisphère qui est dans la nuit pérenne. Et donc, du coup, quand on s'intéresse au climat de ces planètes, même celles qui, en moyenne, reçoivent autant d'énergie que la Terre reçoit du Soleil, parce qu'elles sont très proches à leur étoile, mais leur étoile est une étoile qui n'est pas très brillante, donc finalement, reçoit la même quantité totale d'énergie, cette énergie est reçue intégralement sur un hémisphère et pas l'autre. Donc, il doit y avoir des gros contrastes de température entre un hémisphère et l'autre, qui sont peut-être équilibrés par des vents, mais des vents très puissants, plusieurs centaines de kilomètres heure. Wow. Donc évidemment, c'est des mondes avec des caractéristiques complètement différentes de notre Terre, tout en recevant la même quantité d'énergie.
Mais alors comment on fait pour étudier, Alessandro Morbidelli, ces exoplanètes? Des mondes totalement différents où les planètes ont toujours une face cachée par rapport à leur étoile. Enfin, ça paraît... on a même du mal à l'imaginer, c'est de la science-fiction pour nous, mais pour vous, non.
On a découvert ces objets, donc ils existent. Comment on les étudie? Finalement, c'est pas si compliqué parce que ces planètes étant très proches de l'étoile centrale transitent devant l'étoile et donc on peut observer les planètes pendant qu'ils passent sur la surface de l'étoile et sonder à différentes longueurs d'onde leur atmosphère et donc avoir ainsi une idée de la composition de leur atmosphère. C'est un travail qui a commencé il y a une dizaine d'années avec le télescope Hubble, le télescope au sol aussi, et maintenant on continue avec le télescope James Webb dans l'espace. Et en 2029, les télescopes Ariel de l'Agence spatiale européenne. Donc voilà, on peut avoir des informations de ces planètes, même si elles sont très distantes de chez nous.
Et c'est pas fini, ça ne fait que commencer, mais je comprends mieux du coup votre choix musical, Alessandro Morbidelli, qui est aussi un clin d'œil à Valérie Lenné. Vous avez choisi d'écouter un extrait de l'album des Pink Floyd, Dark Side of the Moon, la face cachée de la Lune. Allez, on écoute le morceau qui s'intitule Brain Damage. Et vous allez comprendre à la fin pourquoi, chers amis auditrices et auditeurs.
On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games.
daisy chains and bluffs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with other bones too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Starts playing different tunes. I'll see you on the dark side of the moon.
Dark Side of the Moon, l'album des Pink Floyd sur RFI. Merci pour ce choix musical de circonstance, professeur Alessandro Morbidelli. Autour de la question de l'incroyable diversité des systèmes planétaires, aussi autour de votre formidable découverte, Valérie Lenné, d'un océan global sous la couche de glace de Mimas, une lune de Saturne. À ce sujet et au sujet de cette eau liquide en abondance dans les deux lunes de Saturne, Saturne en a 80. Mais on parlait d'Encelade et de Mimas. Nouvelle question tout de suite soulevée par David Fossé, mon confrère de Ciel et Espace.
Vous venez de découvrir un océan sous Mimas, cette petite lune de Saturne. Alors ça fait beaucoup, beaucoup d'eau, mais d'où vient cette eau?
Alors d'où vient cette eau? Alessandro Morbidelli a commencé à y répondre, mais Valérie, je veux bien vous entendre là-dessus.
Oh bah je vais donner à peu près exactement la même réponse. Donc comme le disait Alessandro, plus on est près, lorsque le système solaire se forme, plus on a dans le disque, plus vous êtes près du soleil, évidemment, plus il fait chaud. Et ça veut dire qu'évidemment, vous n'allez pas avoir de la glace d'eau. Hein. La glace existe, l'état de vapeur. Et en réalité, si vous trouvez de la glace d'eau, eh bien, il va falloir s'éloigner du soleil à partir d'une distance qu'on appelle la ligne des glaces, c'est-à-dire la distance au soleil à partir de laquelle la glace d'eau va se condenser donc, pour avoir son état solide. Et il se trouve qu'effectivement, c'est au-delà de la ligne des glaces que vous allez former des planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui sont des planètes très massives, comme vous le savez, essentiellement parce qu'elles vont avoir plus de matériaux, plus de glace à leur disposition pour se former. Et donc la glace qui forme la coquille de glace des lunes de Jupiter, comme Ganymède et Europe, ou encore Encelade, Mimas, bien évidemment, vient effectivement de l'origine, la formation du système solaire, au-delà de cette limite, la ligne des glaces.
Ce qui veut dire que toutes ces lunes sont toujours glacées et que parfois il y a de l'eau, qu'on peut rechercher de l'eau ailleurs.
Alors oui, il faut distinguer la glace d'eau de l'eau liquide. La glace d'eau, ça effectivement, on va en trouver en quantité, mais avoir de l'eau liquide, c'est beaucoup plus difficile.
C'est ça,
parce qu'il faut avoir une source de chauffage. Il faut aussi savoir que plus un objet est petit, plus rapidement il perd sa chaleur. La plupart des objets, en tout cas sur lesquels l'on va étudier dans le cas de Mimas, Encelade, etc., sont sphériques ou à peu près sphériques. Et ce qui caractérise Mimas et Encelade par rapport à des lunes comme Europe, qui sont notamment des cibles pour l'habitabilité, comme vous le savez, avec les prochaines missions spatiales, eh bien, c'est qu'elles sont beaucoup plus petites. Et en étant beaucoup plus petites, eh bien, la chaleur va être évacuée très rapidement. Et donc, c'est très difficile d'imaginer que vous puissiez maintenir de l'eau liquide pendant beaucoup de temps, puisque la chaleur va être évacuée. Donc, il faut maintenir cette eau liquide par un chauffage constant. Et donc, c'est vraiment crucial dans le cas des petites lunes comme Mimas et Encelade.
Et donc, c'est crucial d'être au plus près ou plus loin de son étoile, du Soleil.
Alors, ça, c'est. En l'occurrence, ce sont vraiment les effets de marée qui vont faire fondre cette glace. Donc, c'est indépendant de la distance au Soleil. Donc, là, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'avoir de liquide en surface, mais vraiment sous la surface, par les frictions internes liées aux marées.
Autour de la question, pourquoi une telle diversité, une telle complexité, une telle singularité des systèmes planétaires en général et de notre système solaire en particulier, celui qu'on connaît tout de même le mieux et qu'il est plus facile d'observer? Ah, maintenant j'ai un petit message pour vous, ça s'adresse à Alessandro Morbidelli. Vous êtes en duplex avec nous depuis Nice. Sur notre page Facebook, un astrophysicien que vous connaissez bien, Éric Lagadec, votre confrère à l'Observatoire de Nice, qu'on connaît bien nous aussi sur RFI pour ses travaux, mais aussi pour son investissement dans la revue web L'Astronomie Afrique et avec notre réseau qui ne cesse de s'agrandir d'astronomes amateurs sur le continent, eh bien Éric Lagadec nous a laissé un message pour vous, Alessandro. Alors si je me permets, je vais vous appeler Morbi, parce qu'apparemment c'est comme ça qu'il vous appelle. Je suis désolée, cher professeur. Voilà. Donc je cite Éric Lagadec, Morbi, et il vous tutoie, donc je vais vous tutoyer en prenant sa voix. Morbi, c'est quoi la différence entre Jupiter et Saturne? Sinon, là il y a un grand point d'exclamation. Sinon, félicitations, vous dit Éric Lagadec, pour ta nomination au Collège de France. Et sinon, question plus sérieuse, nous y voilà. Si tu avais la possibilité, cher Morbi, de faire la mission spatiale que tu veux pour comprendre la formation du système solaire, budget illimité, tu fais quoi? Vous faites quoi, cher Morbi?
Voilà, merci. Alors, bon, déjà, la différence entre Jupiter et Saturne, c'est une vieille blague à l'Observatoire avec mon ancien étudiant, Aurélien Crida, qui aujourd'hui est professeur à l'Université de Nice.
D'accord.
L'Université des Côtes d'Azur. Et donc, justement, il travaillait sur la migration des planètes. Alors, c'est un mouvement que les planètes ont quand elles naissent à l'intérieur d'un disque de gaz qui entoure l'étoile, dans lequel les planètes géantes se forment. Donc en se formant, les planètes acquièrent masse, interagissent avec les disques et changent leur orbite et tendent à migrer vers l'étoile. Wow. Eh bien, la migration de Jupiter et de Saturne est assez différente parce que deux planètes ont des masses différentes. Saturne est un tiers de la masse de Jupiter. Et ça fait toute une différence au niveau de cette loi des migrations. Donc Saturne migre beaucoup plus vite de Jupiter. Et donc s'approche de Jupiter jusqu'à être capturé en résonance. Et quand ces deux planètes sont capturées en résonance, leur migration s'arrête ou elle s'inverse. Ah. C'est toute la clé des structures de notre système solaire. Et ça explique pourquoi nos planètes géantes à nous sont si loin de l'étoile, alors que la plupart des planètes des masses joviennes qu'on observe autour des autres étoiles se trouvent en fait à la place de la Terre ou de Mars.
Ah, donc ce n'est pas qu'une simple boutade, c'est une vraie. Non, cette migration des planètes est fondamentale.
Tout à fait. Donc, après, pour la deuxième question, donc, quelle serait la mission rêvée? Je pense que ma mission rêvée serait. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait science-fiction. Il y a des gens déjà qui commencent à y réfléchir, mais il n'y a pas encore un concept de mission bien, bien établi. C'est un retour d'échantillon de Vénus. Pourquoi? Parce que Vénus et la Terre sont deux planètes jumelles, ouais, ont la même masse, se trouvent à peu près à des distances comparables du Soleil. Mm-hmm. Eh bien, elles sont complètement différentes. La Terre a une lune, Vénus ne l'a pas. La Terre a un champ magnétique, Vénus ne l'a pas. La Terre a de l'eau liquide en surface, Vénus ne l'a pas. Et la Vénus tourne à l'envers, etc. Et on voudrait donc, par ces retours d'échantillons, connaître deux choses essentiellement. Est-ce que les matériaux qui ont composé les deux planètes sont les mêmes ou pas? On s'attendrait que Vénus échantillonne un peu davantage du matériau qui provenait du voisinage du Soleil, mais peut-être on a tort. Et le deuxième est sur la chronologie de la création. Alors la Terre termine sa formation par un impact géant avec une autre planète à peu près de la taille de Mars qui a engendré un disque de débris à partir duquel s'est formée notre Lune. Et évidemment, Vénus, ce n'était pas le cas. Alors, cette collision qui a originé la Lune, c'est arrivé relativement tard dans la lignée de la formation des planètes, à peu près 100 millions d'années après la formation du Soleil. Et on voudrait comprendre si c'est une durée caractéristique de formation des planètes ou pas. Et donc, regardez Vénus, la planète jumelle, la planète qui finalement a crêté autant de masse que la Terre, et mesurer la chronologie de sa formation à travers certains indices que ces roches nous donneraient. nous permettrait vraiment de élucider à quel niveau des contingences se situe la formation de la Terre.
Et vous dites, c'est pas de la science-fiction, Alessandro Morbidelli, on pourrait ramener des échantillons de Vénus.
Oui, parce que Vénus a une atmosphère très épaisse et donc il y a une grande pression au sol, une grande température au sol, c'est à peu près 500 degrés, une pression 90 atmosphères. Mais apparemment, selon, pour avoir discuté avec certains ingénieurs au JPL l'année passée, donc Valérie aussi a resté plusieurs années au JPL, et ben, ils pensent que ce n'est pas si rédhibitoire que ça. Et donc, ça peut être faisable, évidemment, ces missions avec ses coûts. Et l'intérêt scientifique est tel que je pense qu'un jour, c'est une mission qu'on fera.
En attendant d'aller sur Vénus, je vous pose une nouvelle question. Alors, j'imagine qu'elle ne suscitera pas la même réponse, mais j'en sais rien. Elle est soulevée par un autre de vos éminents confrères, cette fois-ci dans sa voix. C'est le planétologue François Forget du CNRS, spécialiste de l'exploration du système solaire et des environnements planétaires, mais aussi de Mars. Eh bien, je vais laisser François Forget vous parler, Alessandro.
Bonjour Alessandro, bravo pour tout ton travail. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, ce serait, alors que tu as travaillé sur la formation du système solaire depuis le début jusqu'à sa configuration actuelle, à tes yeux, quelle est l'étape qu'on comprend le moins? Quelle est l'énigme qu'il reste pour savoir comment on passe d'un nuage de poussière quelque part dans la galaxie à nos planètes d'aujourd'hui? Où est-ce qu'il y a une grosse énigme encore à résoudre? Et accessoirement, est-ce que tu comptes travailler sur cette énigme à résoudre?
Votre réponse, Alessandro Morbidelli, j'en profite pour vous renvoyer, chers amis auditrices et auditeurs, sur une de vos vidéos que j'ai vues, je crois qu'elle est en anglais, mais elle est excellente, Unsolved Mysteries in Planet Formation, les mystères non résolus dans la formation des planètes, Alessandro.
Tout à fait, donc il y en a plusieurs, mais je dirais les problèmes les majeurs est la première étape, donc comment est-ce qu'on passe justement d'un disque de gaz et des poussières un disque de gaz et planétésimaux. Alors, qu'est-ce que sont les planétésimaux? C'est des objets de taille intermédiaire, plusieurs dizaines de kilomètres, 100 kilomètres, peu analogues aux astéroïdes, s'ils sont rocheux, ou aux comètes, s'ils sont composés de glace. Mm-hmm. Et c'est l'étape première pour former les planètes. Alors, il y a eu des grands avancements sur la question. On a compris que les poussières peuvent faire des instabilités dynamiques, créer des amas de poussière autogravitants, qu'ensuite il faut collapser, former ces objets. Mais ce qui n'est toujours pas clair est dans quelles conditions ceci a lieu. Et ce qui est intéressant est que les poussières devraient disparaître très vite dans les disques parce qu'elles sont freinées par les gaz, donc devraient spiraler dans l'étoile. Donc on dirait, bon, soit on fait des planétésimaux très vite, soit on ne les fait plus.
Ouais.
Mais quand on observe les disques protoplanétaires autour des autres étoiles, on voit que ces disques restent poussiéreux pendant des millions d'années. Et on sait que dans notre système solaire, on a formé à la fois des planétésimaux très vite, en quelques centaines de milliers d'années, mais aussi des planétésimaux très tard, après plusieurs millions d'années. Donc les disques ont su garder les poussières quelque part, qui sont restées à l'état des poussières pendant des millions d'années, et puis tout d'un coup, on décide de former des objets. Et donc ça, c'est un peu l'étape qu'on ne comprend pas bien encore. Et bien sûr, j'y travaille.
Et est-ce que vous diriez, du coup, j'ai bien compris qu'il y a une diversité de tous les systèmes planétaires, que ce soit notre système solaire ou toutes les exoplanètes que l'on découvre, mais est-ce que vous diriez, je poserai la même question à Valérie, est-ce que notre système solaire, et notre Terre en particulier, est vraiment unique dans l'univers, ou est-ce qu'au fond, chaque système, chaque planète, chaque objet est lui-même unique et singulier, Alessandro?
Non, il n'est pas correct de dire que chaque système est unique. En fait, on voit qu'il y a des structures qui se répètent. Donc, quand on regarde les systèmes extrasolaires, on voit en gros que les planètes appartiennent à certains groupes et on a tendance à retrouver les mêmes groupes autour des étoiles. Donc, ce n'est pas quelque chose
d'accord.
de complètement aléatoire, parce que sinon, y aurait des planètes de toutes les formes différentes. Donc, encore une fois, je pense que c'est un processus qu'à un moment donné peut prendre une voie d'évolution ou une autre. Donc, il y a un nombre fini de voies possibles. Chacune amène à une certaine structure. Et donc, ces structures se répètent avec une probabilité, une certaine probabilité. Donc, la question est quelle est la probabilité d'avoir un système comme les systèmes solaires. Certainement, il en existe d'autres. Alors, observationnellement, c'est difficile à dire parce que les planètes de notre système solaire, à l'exception de Jupiter, ne sont pas encore observables autour des autres étoiles à cause de limitations techniques. Mais Jupiter, on peut le voir. L'analogue de Jupiter, on peut le voir. Eh bien, il y a seulement une étoile sur 1000 qui a l'équivalent de Jupiter autour. Et parce que bon, déjà, une étoile comme le Soleil n'est pas majoritaire, la plupart des étoiles sont des étoiles naines. Seulement 10% des étoiles ont un Jupiter autour, mais la plupart de ces Jupiters ont des orbites qui sont trois très petites, trois très excentriques, etc. Mm-hmm. Donc, différentes de notre Jupiter. Donc, quand on fait le produit de ces probabilités, à peu près, on trouve que seulement une étoile sur 1000 rassemble au Soleil et a une planète qui rassemble Jupiter. Donc, évidemment, le système solaire est plus compliqué que le simple couple Soleil-Jupiter, donc il est encore plus rare que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit unique. Et du point de vue de la Terre, ce n'est pas dit qu'il faille toute une architecture style système solaire, avec un Jupiter, un Saturne, etc., pour avoir la Terre. Donc, strictement, on n'en sait rien de quelle est la fréquence d'existence d'une planète comme la Terre. On espère d'avoir les premières indications observationnelles avec la mission Plateau de l'Agence spatiale européenne.
Parce qu'évidemment, derrière tout ça, derrière la spécificité ou l'unicité de la Terre, je me tourne vers vous, Valérie Lenné, se cache évidemment la grande énigme de la vie. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Et quand on fait une découverte comme la vôtre, alors je sais bien que c'est de l'eau, un océan d'eau liquide sous une croûte glacée dans une lune de Saturne, une petite lune de Saturne. Est-ce que justement, est-ce que notre système solaire et toutes ces complications, cette évolution-là qui a permis tout ça, est particulière selon vous? Comment vous réagissez, vous?
Je dirais que ce qui est surprenant, en tout cas, dans le cas de Mimas, c'est clairement, et même d'une manière générale, des lunes du système solaire. Je renvoie encore à ce que disait André Braïc au début. Effectivement, on s'aperçoit que beaucoup d'objets dans le système solaire ont de l'eau liquide sous leur surface. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout avant les missions spatiales, et c'était une grande découverte. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on peut se reposer la question. Est-ce que la vie, finalement, se développe plus naturellement sur une planète ou sur une lune, par exemple? On pourrait se poser la question.
Oui, est-ce qu'on pourrait trouver de la vie sur une lune?
C'est ça. Et alors, sur le principe, j'imagine que oui. Enfin, en tout cas, on pourrait même imaginer une planète comme la Terre autour d'une autre planète. Enfin, on peut imaginer
beaucoup de choses.
On peut imaginer beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours un certain cadre de pensée quand on se pose ce genre de questions, qui est l'héritage finalement de nos connaissances à un instant T. Donc, quand on pense encore une fois à l'ère préspatiale, on avait des connaissances qui nous disaient qu'effectivement, au-delà d'une certaine distance, le Soleil ne réunit pas assez pour avoir de l'eau liquide à la surface, etc. etc. Et puis finalement, lorsqu'on a ces découvertes-là, on est toujours très surpris. C'était la même chose quand on a découvert les premières exoplanètes, qui étaient des Jupiters chauds, donc des planètes comme Jupiter en termes de masse, mais qui étaient extrêmement proches de leur étoile, un dixième de la distance Mercure-Soleil. Donc ça aussi, ce n'était pas du tout attendu. Et en fait, on est toujours surpris, effectivement, parce qu'on part d'un cadre qui, évidemment, est biaisé par notre vision du monde très centré sur la Terre, naturellement, évidemment.
Donc il faut avoir l'esprit très, très ouvert. Et finalement, vous parliez tout à l'heure d'intuition, Valérie Lenné, ou quand on écoute Alessandro Morbidelli, on se rend bien compte qu'il faut à la fois être extrêmement sérieux, mais en même temps se permettre, je dirais pas tout, mais une imagination bien plus ouverte.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on a toujours en tête ce qu'on appelle l'état de l'art, donc les connaissances, il faut bien penser que c'est le fruit d'observations qui ont toujours des erreurs. Il peut y avoir des erreurs de mesure, il peut y avoir des biais, il peut y avoir de la modélisation des biais également. Donc, on hérite d'un certain nombre de choses que l'on considère être à peu près certaines, mais il faut toujours garder en tête que certaines de ces bases peuvent être erronées, tout simplement parce que un instant T, un argument peut être tout à fait recevable, et puis plus tard, avec de nouvelles observations, il ne l'est plus. Donc, il faut toujours garder ça en tête, effectivement, quand on aborde une question un peu compliquée.
Et puisque vous avez parlé d'observation, je propose de méditer sur tout ce qu'on vient de dire juste après avoir écouté la nuit, puisque les astronomes que vous êtes adorent la nuit, l'observation des étoiles. La nuit, ça se dit Niloti en langue banen du Cameroun. Très joli morceau extrait de la playlist du mois sur RFI, interprété par Kile Djian et Cindy Pouch. Niloti, la nuit. Thank you. La nuit étoilée dans la playlist du mois sur RFI. La nuit, c'est votre domaine, celui des astronomes et des planétologues. Nous sommes en duplex avec Alessandro Morbidelli, en direct avec Valérie Lenné, autour de la question pourquoi une telle diversité dans notre système solaire et au-delà. Alors, notre système solaire qu'on pense connaître, mais dans lequel, sur lequel il reste tout de même de sacrées incertitudes et une énigme de taille sur laquelle je sais que vous avez planché, Alessandro Morbidelli, et sur laquelle vous interroge l'astrophysicien Olivier Bernet, spécialiste, lui, de la nébuleuse d'Orion qu'il étudie grâce à la mission James Webb de la NASA.
Bonjour Alessandro, il paraît qu'avec James Webb, si on savait où était la 9e planète du système solaire, on pourrait aller la chercher. Est-ce que tu as réussi à trouver, à l'heure actuelle, où est-ce qu'elle se trouve ?
La 9e planète du système solaire, ce n'est pas du tout une blague, c'est une vraie hypothèse, Alessandro Morbidelli.
C'est une vraie hypothèse. Donc, on connaît 8 planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et on pense qu'il pourrait y en avoir une 9e, mais qui, elle, est très loin, environ 1 000 000 d'unités astronomiques, dont 1 000 fois la distance Terre-Soleil. Et on déduit sa présence par des effets gravitationnels qu'elle engendre sur des comètes, des objets de type cométaire, qui vont assez loin, justement, dans le système solaire, vont vers les 1 000 unités astronomiques, donc vont s'approcher un peu l'orbite de cette planète. Seulement qu'on ne sait pas exactement où est-ce que cette planète se trouve, quelles sont les caractéristiques de son orbite. Donc le JWST n'est pas un télescope pour la chercher, c'est un télescope bien trop cher, il va voir des choses à coup sûr, mais c'est sûr que si on découvrait la planète, le JWST pourrait l'étudier. Alors maintenant, pour être sûr ou pas que cette planète existe, parce qu'il y a débat, hein, on n'est pas certain que la planète existe, mais il y a un autre télescope qui est en train de travailler, qui va commencer à travailler, là c'est cette année-ci, donc le télescope Vera Rubin, lui va balayer tout le ciel. À partir du Chili, exactement, on va balayer tout le ciel et plusieurs fois par semaine, et donc on va découvrir tous les objets qui bougent, donc il pourrait voir la planète si elle existe, mais peut-être la planète reste encore un tout petit peu trop faible pour la voir, mais certainement il verra plus d'objets distants qui sont affectés par cette planète. Et donc, on aura ainsi la certitude s'il y a quelque chose qui perturbe ces objets ou pas. Et c'est juste une question de bio-observationnel et des statistiques de petits nombres qui restent quand même une possibilité à l'heure d'aujourd'hui.
Et est-ce que ça changerait quelque chose dans vos travaux, dans vos recherches, Alessandro Morbidelli ? Parce que, je ne sais pas si on l'a assez compris, mais vous travaillez sur la formation des planètes, des systèmes, et notamment du système solaire. Et le système solaire, c'est celui qu'on connaît le mieux, qu'on peut observer le mieux. Et même celui-là, c'est déjà très, très complexe. Donc, est-ce que ça vous permettrait d'avancer un peu dans la compréhension de la variété, de la diversité des chemins possibles pour faire étoiles, planètes, satellites et systèmes ?
Oui, ça éluciderait un peu la manière dont les planètes géantes se sont formées. Déjà, selon nos modèles, donc, les planètes géantes se forment à partir de planètes qui sont déjà assez conséquentes, sont des super-terres et qui rentrent en collision, fusionnent entre elles. Et dans ce type de dynamique, il y a toujours des planètes expulsées. Alors, la plupart de ces planètes expulsées partent dans l'espace interstellaire, mais il est possible, il y a une probabilité significative de l'ordre d'une 10% qu'une planète perturbée par d'autres étoiles, à l'époque quand le Soleil s'est formé, il était dans un amas d'étoiles, donc il y avait des étoiles plus proches, au lieu de partir dans l'espace interstellaire, reste sur une orbite très elliptique, découplée de celles des autres planètes, donc puisse survivre jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est comme ça que si cette planète existe, on pense qu'elle était mise sur une orbite si distante, si excentrique et inclinée. Donc ça confirmerait un peu ce scénario assez violent finalement, sur l'origine des planètes géantes, scénario violent qui n'est pas complètement du chapeau, parce que les axes de rotation d'Uranus et Neptune sont très inclinés. Mm-hmm. Donc l'axe de rotation de Neptune est incliné de 30 degrés, un peu comme celui de la Terre, qui a eu une grande collision, celle qui a donné origine à la Lune. Mm-hmm. Mais l'axe de rotation d'Uranus est incliné de 98 degrés. Ah, ouais. Donc en fait, Uranus tourne un peu à l'envers, en fait, roule sur son plan orbital. Et on pense que justement, ce sont des collisions géantes qui ont pu faire basculer ces axes de rotation par rapport à leur position initiale qui était orthogonale au plan orbital.
Collision géante, ça nous fait tout de même fantasmer, rêver. C'est assez extraordinaire. Vos recherches, sur quoi travaillez-vous, Valérie Lainé, en ce moment? Quelles sont les missions que vous attendez ou sur lesquelles vous travaillez?
Alors, il y a une mission européenne qu'on est obligé un peu de citer, comme c'est la mission de JUICE,
mais
qui
oui,
est une mission donc, de l'Agence spatiale européenne, donc, qui a décollé l'année dernière. Et donc, qui doit arriver en 2031 dans le système de Jupiter. Et après quelques années en orbite autour de Jupiter, finir par se mettre en orbite autour de Ganymède, qui est la plus grosse lune du système de Jupiter. Et donc ça va être une grande première, hein, avoir un satellite artificiel en orbite autour d'une autre lune que notre lune, si je puis dire. Ça va être vraiment...
Et ça, on va pouvoir le suivre. Et il y a aussi des effets de marée, alors, j'imagine.
Absolument. Alors,
c'est pour vous.
Voilà, il y a aussi des effets de marée. Il y a également, effectivement, un océan d'eau liquide sous la couche de glace. Et effectivement, la mission de JUICE va essayer de mesurer l'épaisseur des océans, donc de l'océan, en l'occurrence de Ganymède, l'épaisseur de la couche de glace. Ce qui serait intéressant également, c'est d'essayer d'en déduire l'âge de ces océans, que ce soit Europe ou Ganymède, puisque, bon, je rappelle qu'effectivement, vous avez JUICE, et puis au même moment, vous avez une mission américaine qui s'appelle Europa Clipper, et bien qui va avoir de nombreux survols du satellite Europe, donc une cinquantaine, et qui fera à peu près le même travail, c'est-à-dire analyser l'océan d'Europe, l'épaisseur de la couche de glace, etc.
Donc on va avoir des dates et on va avoir des choses. Écoutez, vous allez revenir, Valérie et Alessandro, pour nous en parler, parce qu'on est fans, et en tout cas, ça nous fait rêver. On arrive à comprendre un petit peu, à s'y mettre un petit peu. Un grand merci à tous les deux. Donc Valérie Lainé d'avoir été en direct avec nous autour de cette fabuleuse découverte. Je rappelle, un océan de glace sous Mimas, lune de Saturne. Vous revenez quand vous voulez. Les effets de marée, on a commencé à comprendre, mais on en veut encore. Merci Alessandro Morbidelli d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Azur à Nice. Merci à la technique sur place, à Hubert Moussaigne. Et je ne peux que vous renvoyer, chers amis auditeurs et auditrices, sur les quelques liens que nous allons mettre sur notre page autour des vidéos sur YouTube de l'équipe de Valérie Lainé, mais aussi d'Alessandro Morbidelli. Je rappelle aussi que le lien sur vos cours au Collège de France, Alessandro Morbidelli, sont ouverts à tous et disponibles à tous. Vous êtes titulaire de la nouvelle chaire formation des planètes de la Terre aux exoplanètes. Avis à vous, chers amis auditeurs et auditrices qui êtes fans d'astronomie, de planétologie. Je sais que vous êtes nombreux. On vous salue sur tout le continent. À bientôt, Valérie. À bientôt, Alessandro.
Merci. Merci. À bientôt.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver lundi autour de la question pourquoi et comment la technologie peut faire de nous des soldats. Interrogation signée Asma Mala, jeune et brillante chercheuse, spécialiste de l'IA dans un ouvrage percutant. Technopolitique à découvrir avec Thibaut Baduel à la réalisation lundi prochain. Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert sur la voûte étoilée, ouvert à tous les possibles aussi. À l'écoute de RFI, c'est bientôt les informations.